Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La répression par la France de manifestations indépendantistes le 8 mai 1945 en Algérie, à Sétif notamment. Cela fait 77 ans, les événements du Nord Constantinois survenus en mai et juin 1945. Nous y reviendrons avec l'historien Gilles Monceron, spécialiste de la période coloniale. La France condamne l'attaque terroriste qui a coûté la vie à 11 militaires égyptiens samedi dernier dans le Sinaï, dans le nord-est de l'Égypte. Le Mali considère désormais la présence des militaires français et européens sur son sol comme illégale. Sur l'évolution et la dégradation des relations entre le Mali et la France, nous écouterons Sédi Kaba, journaliste et écrivain, ancien rédacteur en chef central à Jeune Afrique. Les élections législatives, vendredi et ce dimanche pour les résidents libanais de l'étranger, environ 60% des inscrits dans 58 pays se sont rendus aux urnes. Les massacres de Sétif, Guelma et Kerata en Algérie, cela fait 77 ans. Les événements du Nord Constantinois survenus en mai et juin 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale marquent une rupture dans l'histoire de l'Algérie coloniale. Plusieurs milliers d'Algériens ont perdu la vie, victimes de la répression française. Entretien avec l'historien Gilles Monceron, spécialiste de la période coloniale.
Ces massacres ont été déclenchés par le fait qu'au moment de la victoire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à laquelle des soldats venus d'Afrique du Nord avaient participé, puisque le débarquement des Alliés en Afrique du Nord en 1942 avait ensuite été le point de départ d'une reconquête de l'Europe, en commençant par l'Italie, qui était contrôlée par l'Allemagne nazie. Donc, des soldats d'Afrique du Nord et notamment d'Algérie avaient participé à cette victoire. Et le mouvement indépendantiste qui est renforcé par l'avancée dans le monde entier de l'idée du droit des peuples à l'indépendance, cette libre disposition d'eux-mêmes, a fait que des Algériens de l'association qu'on appelait les Amis du Manifeste et de la Liberté, qui regroupait plusieurs courants, dont le courant historique du PPA, Parti du Peuple Algérien, devenu MTLD par la suite, participe au défilé de la victoire. Et notamment dans ces villes de Sétif, de Guelma, dans le Constantinois, où des défilés ont lieu jusqu'au monument aux morts, etc. Avec des drapeaux, ils y participent avec des drapeaux algériens et avec des revendications qui portent sur l'indépendance, la libération des prisonniers ou des assignés à résidence indépendantistes, dont Messaliadj à l'époque, et donc ce fait est considéré comme intolérable par la police et les autorités de ces villes et de ce département du Constantinois, et les porteurs de drapeaux sont l'objet de tirs à l'arme à feu, et c'est le début d'une répression très violente contre ces manifestations qui ont lieu principalement dans ces deux villes, hein, à l'est et à l'ouest de Constantine, Guelma et Sétif. Alors, il y a d'abord une réaction violente des manifestants algériens qui s'en prennent parfois dans le désordre et dans la plus grande confusion et à des civils européens. Il y a une centaine de morts essentiellement à Sétif parmi ces civils européens qui sont pris à titre de représailles. Il faut dire que des civils avaient participé à la répression aussi en tirant de leur balcon, etc. Donc c'est un début d'une certaine forme de guerre civile. Et puis surtout après, il y a une répression organisée par l'armée qui comprend également des tirs de l'artillerie de bateaux au large de Kerata, au large de la côte du nord constantinois, qui tirent sur certains villages qui sont en état d'insurrection, si je puis dire, mais une insurrection très, très inorganisée. Enfin, c'est un événement très important parce qu'il marque le début d'une prise de conscience de ce qu'il faudra acquérir par la lutte armée, l'indépendance du pays. Les voies politiques et pacifiques apparaissent comme lointaines à partir de cette répression terrible qui fera plusieurs dizaines de milliers de morts.
Et cela est présenté comme étant les prémices de la guerre d'indépendance.
Oui, on peut considérer ce que sont les prémices de la guerre d'indépendance. le général Duval, qui présidait en quelque sorte à l'organisation de cette répression, a dit « Bon, voilà, on a ramené l'ordre, hein, on a réprimé ces révoltes, mais si vous ne faites rien sur le plan politique, ça ne sera qu'une paix pour 10 ans. » Eh bien, il ne se trompait pas, parce que en 1954, c'est-à-dire 9 ans plus tard, eh bien, il y a eu le 1er novembre et le début de la guerre d'indépendance nationale.
Depuis combien de temps cette période est-elle mise en lumière également en France ?
Pas très longtemps. Pendant très longtemps, on a limité la commémoration du 8 mai 1945 à la question de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. C'est cela seul qui était considéré comme un fait important de cette date. Or, au même moment, peu avant, il y a eu des répressions à Damas, en Syrie, et au même moment, le 8 mai précisément, eh bien, il y a en Algérie des manifestations qui sont réprimées et qui déclenchent une répression importante. Et cela fait pas très longtemps que, en France, on a pris conscience. Depuis quelques années, il y a des rassemblements. Il y en a eu en particulier en 2015, au moment où c'était l'anniversaire décennal du 8 mai 45 et de ses suites. Il y a eu des rassemblements de certaines associations à Paris, devant l'Hôtel de Ville, qui marquaient cette volonté de parler aussi de ce que ces associations ont appelé l'autre 8 mai 45. Parce qu'il n'y a pas eu seulement la victoire sur le nazisme, la libération des camps de déportation et d'extermination des nazis. Donc c'est un fait qui a marqué la mémoire européenne, justement, à juste titre. Mais au même moment, il s'est passé quand même un autre fait extrêmement grave aussi en Algérie. Ça fait seulement quelques années, je dirais une petite dizaine d'années, que ça commence à rentrer dans la conscience de l'opinion française.
L'historien Gilles Manceron, spécialiste de la période coloniale. Plusieurs centaines de Tunisiens ont manifesté hier dans le centre de Tunis en soutien au président Kais Saied, un rassemblement pour faire part de leur adhésion aux mesures qu'ils prônent pour redresser le pays. Des mesures décriées comme une dérive autoritaire par ses adversaires. Plusieurs partis d'opposition ont annoncé à la fin du mois dernier la création d'un front de salut national avec l'objectif d'unir toutes les forces politiques. La Tunisie, notamment, la France aussi, condamne l'attaque terroriste qui a coûté la vie à 11 militaires égyptiens samedi dernier dans le Sinaï, dans le nord-est de l'Égypte. Une attaque menée contre un poste de contrôle routier près d'une station de pompage d'eau le long de la route qui conduit du canal de Suez à la ville de Hassana. C'est l'une des attaques les plus meurtrières des dernières années dans cette région où les forces de sécurité égyptiennes luttent depuis près d'une décennie contre les terroristes liés à Daesh. Un Palestinien a été tué hier soir par l'armée israélienne. Il tentait, selon les autorités israéliennes, de s'infiltrer en Israël depuis la Cisjordanie occupée. C'est arrivé quelques heures après l'annonce par Israël de l'arrestation de 2 Palestiniens soupçonnés d'avoir tué jeudi 3 Israéliens dans la ville israélienne d'Elad. Le Mali considère désormais la présence des militaires français et européens sur son sol comme illégale. La junte malienne dénonce des atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du pays. Cela justifie sa dénonciation des accords de défense conclus avec Paris et d'autres partenaires sur l'évolution et la dégradation des relations entre la France et le Mali. Entretien avec Sedi Kaba, journaliste et écrivain, ancien rédacteur en chef central à Jeune Afrique, auteur de Mali, Sahel, notre Afghanistan, à nous, chez Impact Éditions, Sedi Kaba.
Il y a eu une escalade continue entre le Mali et la France depuis le mois de juin 2021, lorsque le président Macron, à la place de la recomposition de la force Barkhane qui était attendue, a annoncé finalement la suppression totale de cette force française présente au Mali depuis janvier 2013. Et les autorités de transition malienne avaient considéré cela comme une décision unilatérale et même comme un lâchage du Mali par les autorités françaises. À la suite de cela, en septembre 2021 toujours, le premier ministre malien avait accusé la France d'avoir abandonné le Mali en plein vol et de fil en aiguille, on est allé d'escalade en escalade. Les autorités françaises répondant à leur tour, les autorités maliennes ajoutant une autre couche, jusqu'à ce qu'on arrive finalement en décembre 2021 à l'expulsion pure et simple de l'ambassadeur de France au Mali, ce qui était une décision totalement inattendue, inédite dans l'histoire des relations entre la France et le Mali. Et puis, depuis lors, les choses ne se sont pas arrangées. Et la France a décidé, en février, a annoncé le retrait de l'ensemble de ses forces du Mali et même de la force européenne Takuba. Le Mali avait réenchéri en disant qu'il donnait un délai immédiat, il demandait le départ immédiat des forces françaises de son territoire, alors que les autorités françaises avaient dit qu'elles avaient besoin de 6 mois pour se retirer. Après, il y a eu les épisodes que l'on sait, et jusqu'à ce qu'on arrive à cette décision où le Mali a estimé qu'il n'était plus possible de continuer à entretenir l'accord de coopération qui avait été signé entre le Mali et la France et le pacte additionnel qui permet, qui régit la présence des forces françaises, la force Barkhane et les forces européennes. Donc c'est un nouvel épisode, on est allé crescendo, crescendo, jusqu'à cet épisode où le Mali a décidé de remettre en cause les accords de coopération qui le lient avec la France.
La France qui conteste la rupture des accords de défense, alors que le Mali dénonce de multiples violations de l'espace aérien par les appareils français.
Oui, exactement. Je pense que cela traduit aussi le niveau d'incompréhension auquel on est arrivé. Les Maliens ont estimé qu'à partir du moment où la CEDEAO a décidé de les sanctionner, de fermer la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a décidé de sanctionner le Mali en janvier 2022 en formant les transports terrestres aériens que la décision s'appliquait à tous les aéronefs, puisque le Mali a décidé en réaction à cette décision, lui aussi, de fermer son espace aérien. Et les Maliens avaient dit que la mesure s'appliquait aux aéronefs français. Et les Français avaient une autre compréhension en disant que la mesure ne concernait que les aéroports, que les aéronefs civils. Il y a déjà eu une incompréhension à ce niveau. Lorsque, à la suite de cela, le Mali, aidé par sa coopération avec la Russie et Wagner, a décidé d'instaurer une zone d'exclusion aérienne pour pouvoir assurer l'efficacité, en tout cas officiellement, c'est ce qui est dit, l'efficacité des opérations militaires qui étaient conduites, notamment dans le centre du Mali et sur la zone, une partie de la zone des trois frontières qui est commune au Niger, au Burkina et au Mali. Les autorités françaises ont estimé que, puisque la France du Barkhane est toujours présente au Mali, qu'il n'y a pas de modification dans leur façon de conduire les opérations et qu'elles n'avaient pas besoin d'autorisation préalable pour que les avions décollent, pour qu'ils fassent un certain nombre d'opérations. Alors que les Maliens, on dit, ont instauré un principe d'autorisation préalable 72 heures avant que les avions et les aéronefs se déplacent sur le territoire malien. Donc, c'est cette incompréhension qui a amené les Maliens, ayant considéré tous les décollages comme une violation de leur territoire, ont recensé, disons, 53 violations, au moins une cinquantaine de violations de leur espace aérien. Et puis, il y a l'épisode qui est venu ajouter à la crise. Après la rétrocession par la France de la base de Goussi, une des dernières bases qui lui restait au Mali, sur la frontière avec le Niger et le Burkina, et on a découvert un charnier et les deux parties se sont accusées. Et la France, pour se défendre, a présenté des images qui avaient été filmées à partir d'un drone. Et les Maliens ont estimé que c'est un acte inamical d'espionnage. Et ça aussi, c'est venu ajouter à la complexité des relations entre les deux parties.
Et qui sont aujourd'hui les partenaires du Mali dans la lutte contre le terrorisme?
Le Mali, c'est très, manifestement, le Mali a fait l'option de la Russie, une partie de la coopération bilatérale, mais aussi de Wagner, la société privée, même si officiellement les autorités maliennes ne le reconnaissent pas. Il est documenté, y compris par des chercheurs indépendants, des sources indépendantes, qu'il y a une présence des mercenaires de la société Wagner sur le territoire malien. À côté de ça, il y a effectivement une coopération bilatérale avec la Russie, puisque depuis que le Mali s'est engagé dans la voie de cette coopération avec la Russie, ils ont acheté du matériel, notamment des hélicoptères de combat et de transport de troupes à la Russie, et il y a un personnel que la Russie a détaché pour former les pilotes maliens et aussi pour entretenir le nouvel équipement qui est acquis. Donc il y a une orientation, un renforcement de la coopération avec la Russie et Wagner pour remplacer la France pour le Mali. La stratégie, c'est de remplacer Barkhane, de remplacer les forces européennes. Et de ce côté-là, on peut aussi constater qu'il y a une régression de la coopération intra-africaine. C'est-à-dire que le Mali coopère aujourd'hui beaucoup moins avec les pays du G5 qui sont ses partenaires, c'est-à-dire le Burkina, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, qu'avec la Russie et Wagner.
Vous évoquez une forme d'isolement du Mali sur la scène africaine aujourd'hui, sur ce plan?
Oui, on peut parler. D'abord, il y a l'isolement diplomatique, puisque la CEDEAO, comme on sait, a suspendu le Mali. La CEDEAO, qui est l'organisation sous-régionale ouest-africaine, a suspendu le Mali, a donné au Mali un ultimatum jusqu'au 25 avril pour communiquer un nouveau chronogramme de la transition, ce que le Mali n'a pas fait. Et il y a aussi le fait que, au niveau du G5 Sahel, qui est l'organe dédié à la lutte contre le terrorisme dans cette partie du monde, la situation que le Mali a créée fait que l'organisation est presque aujourd'hui paralysée. On peut parler aujourd'hui d'isolement diplomatique, d'isolement économique même, puisque le Mali est un pays continental qui n'a pas de port. Il a besoin du port de Cotonou, du port de Dakar et d'Abidjan pour faire ses importations et ses exportations. Les deux ports ont été fermés aujourd'hui. C'est le seul qui peut, presque c'est du bricolage économique dans lequel le Mali se débat.
Sédiké Abba, journaliste et écrivain, auteur de Mali Sahel, notre Afghanistan à nous chez Impact Édition. Comme chaque année, les Russes célèbrent le 9 mai, le jour de la victoire sur le nazisme. Cet événement a une portée particulière cette année avec la guerre en Ukraine. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour que cette guerre globale ne se reproduise pas, selon les mots de Vladimir Poutine, faisant référence à la Seconde Guerre mondiale. Les élections législatives, vendredi dernier et ce dimanche, pour les résidents libanais de l'étranger, environ 60% des inscrits dans 58 pays se sont rendus aux urnes. Cela représente 135 000 électeurs sur plus de 225 000 inscrits. Un taux communiqué ce matin par le ministère libanais des Affaires étrangères, il n'est pas définitif. Les élections législatives auront lieu dimanche prochain au Liban. Fin de cette édition, il est midi 17, vous êtes bien sûr Radio Orient à midi 30, votre journal en langue arabe avec Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h sera Pauline Rapilly-Ferniaud, candidate de la nouvelle Union populaire écologique et sociale à Boulogne-Billancourt dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine. Et à 19h15, Loïc Barrière recevra Mohamed Lamine Gassama, candidat de la majorité présidentielle dans le 20e arrondissement de Paris. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.